Est-ce que quelqu'un voudrait partager quelque chose à ce sujet? J'avoue que je suis encore bouleversée de l'avoir réécouté, donc la joie. Pour ma part, j'ai été bouleversée en découvrant les premières images parce que j'ai vu les personnes qui chantaient. Alors, peut-être que certains parmi nous les connaissent. Est-ce que vous pouvez les citer? On peut démarrer le... Est-ce que vous en avez reconnu pour certains? Donc, effectivement, le premier, c'est Sébastien Korn. Donc, vous voyez le titre, vous connaissez tous le titre de ce chant, « Mon secours est en toi ». Donc, Sébastien Korn, c'est un chanteur, auteur, compositeur et producteur qui est basé à Montréal. Il est également pasteur et il a écrit des chansons qui ont littéralement fait le tour du monde, donc « Mon secours est en toi » et « Infiniment grand » aussi, si vous connaissez ce chant, qui font partie des chansons les plus chantées dans les églises. Alors, j'essaye dans l'ordre. Ensuite, apparaît dans le clip Dena Moana. On ne la connaît pas forcément en France, mais c'est un auteur-compositeur, c'est une chanteuse, une des voix chrétiennes internationalement reconnue, qui est consacrée à la promotion et l'expression de l'évangile de Jésus-Christ. Ses influences musicales, son inspiration viennent de son expérience personnelle avec Dieu, mais aussi du vécu quotidien de ses amis, de sa famille, des faits de société que connaissent les chrétiens de son pays d'origine, la République démocratique du Congo, et de son pays d'accueil, les États-Unis. Donc elle vit entre les deux, les États-Unis, la RDC, et elle est membre d'une des grandes églises des Assemblées de Dieu de Kinshasa, où elle sert le Seigneur. Ensuite, il y a Pauline Béthuel. C'est une artiste francophone qui a d'abord servi l'Église dans des paroisses locales, puis également avec des groupes de louanges et un groupe que beaucoup connaissent, Glorious. Elle se produit dans diverses églises et elle fait des prestations où elle est accompagnée par un pianiste et une violoncelliste. Et avec elle était Thomas Pouzin. Il est originaire de Valence et il a fondé le groupe Glorious en 2000 à Lyon avec son frère Benjamin à la suite des Journées mondiales de la jeunesse. Ils sont engagés tous les deux à plein temps dans l'annonce de l'évangile par la musique et ils servent dans la paroisse Sainte-Blandine à Lyon. Et puis, il y a Samuel Olivier. Samuel Olivier, il est auteur, compositeur, interprète, producteur, ingénieur du son. Il est aussi une voix prophétique appréciée dans le monde francophone. Il a servi comme responsable de la louange dans l'église protestante unie de Paris-Belleville. Il a rejoint l'église MLK à Créteil et maintenant, il est membre de l'église évangélique baptiste de Chambéry. Et enfin, dans ces chanteurs que nous avons vus, Dan Luiten. Alors, pour ceux qui l'apprécient, c'est lui qui animera la soirée de louange du prochain congrès de la Fédération Baptiste. Il s'est converti en 1996 à Dunkerque. Avec sa femme, il part en 2001 étudier à l'Institut biblique du Québec. Et quand il part de la louange dans la francophonie, il dit... Nous avons besoin de plus de compositeurs, de plus de conducteurs de louanges qui prendront leur appel à cœur et qui feront une différence dans ce monde. Nous sommes appelés à être des voix et non des échos. Traduire de bons chants, c'est bien, mais composer de bons chants, c'est mieux. Et puis une dernière précision, ce chant que nous venons d'écouter... Alléluia à notre Dieu. Il a été composé par Pauline Béthuel, Sébastien Korn, Dan Luiten et Samuel Olivier. C'était vraiment joyeux, dit Dan Luiten, évoquant leur travail sur la composition. La clé, c'est l'humilité, ajoute l'artiste. Et il rappelle que leur but est avant tout de bénir les gens et non pas de se mettre en avant. Donc il y a deux autres chanteurs qui les ont rejoints. Et vous avez vu les musiciens. C'est l'orchestre de Budapest. Une première pour un morceau de louange francophone. Alors si vous avez bien écouté toutes ces explications, vous avez compris que tous ces hommes, ces femmes, viennent d'horizons très différents. Ils sont catholiques, protestants, évangéliques, charismatiques peut-être ou non, mais ils se sont unis dans leur expression de la foi. Et c'est ça qui m'a bouleversée quand j'ai vu ce clip, parce que je savais qu'ils venaient de tous ces horizons. Je les ai vus là chanter tous ensemble, unis. Ils sont tellement éloignés les uns des autres, dans la compréhension, dans l'expression, dans le vécu de leur foi. Normalement, ils ne sont pas faits pour chanter et pour se produire ensemble. Ils sont plutôt, au contraire, les prototypes de personnages qui, dans les siècles passés, se seraient affrontés lors de guerres de religion, les uns traitant les autres d'hérétiques ou de mauvais chrétiens. Et pourtant, quel magnifique hymne pour glorifier Dieu! Quelle symphonie puissante dans les paroles et dans la musique! Alors j'ai voulu en savoir un peu plus. Vous me connaissez, vous savez que je fouille toujours à droite à gauche. Et j'ai un peu cherché sur Internet. Et en fait, vous connaissez ce collectif, la Bénédiction France. Ça s'est constitué en 2020 pendant le Covid. Alors c'est un pasteur anglican d'une communauté francophone de Londres, Jean-Luc Sergent, et Valérie Valentin, une fidèle de Notre-Dame de France, une des églises catholiques francophones de Londres aussi, qui ont été impressionnées par un chant, The United Kingdom Blessing, dans laquelle 65 communautés chrétiennes chantaient la bénédiction sur le Royaume-Uni dans un clip qui a été vu plus de 3 millions de fois au total. Mon épouse et moi avons eu les larmes aux yeux en la découvrant. Elle m'a alors demandé, mais pourquoi ne pas le faire en français, témoigne Jean-Luc Sergent. Nous voulions remettre l'idée de bénir au goût du jour, poursuit Valérie Valentin. Bénir est à la portée de chacun. Nous sommes bénis par Dieu pour bénir à notre tour. Jean-Luc Sergent poursuit, c'était l'occasion pour bénir notre pays en démontrant l'unité des chrétiens. Ici, nous prenons part à l'évangélisation des Français de Londres. Nous avons donc un rôle à jouer dans la revitalisation de l'Église en France. Le pasteur a été aussi encouragé par un de ses paroissiens, le footballeur Olivier Giroud, qui les a exhortés. « Faites quelque chose comme ça pour la France !» Alors il y a un premier chant qui est sorti de cette collaboration entre différents responsables de louanges. C'est un chant que nous connaissons bien. Dieu te bénit et te garde, te donne sa paix. Donc je vous ai mis les paroles. Vous pouvez aussi retrouver ça sur Internet. Ça a été interprété par 110 communautés chrétiennes. Et la volonté clairement affichée, c'est « Nos noms n'apparaissent pas dans la vidéo, y compris ceux de grands chanteurs. Il n'y a que les noms de nos églises. » Une belle dimension d'humilité et d'unité qui proclame « Ce n'est pas l'homme qui veut imposer l'unité par la force de ses bras, mais Dieu qui unit la diversité humaine. » Toutes ces recherches m'ont confortée dans mon idée de départ. Quel message bouleversant porté par ces chanteurs, mais aussi les équipes qui les ont accompagnés, qui les ont enregistrés. Car tous ont dû se contacter, se retrouver, se parler, s'écouter, sans regarder d'abord à eux-mêmes, mais avec un seul point de mire dans une seule direction, la gloire de Dieu. Quelle leçon pour moi! Quel bouleversement en prenant conscience de tout cela, de tout ce que ce clip traduit d'humilité et de désir de seulement servir Dieu. Ce collectif, la Bénédiction France, a vu le jour au sein d'une crise qui nous a tous impactés. Il a été créé par des femmes et des hommes qui se sont unis pendant le Covid pour bénir ceux qui les entouraient. Et partout dans le monde, de tels rassemblements ont vu le jour. Cela a impacté des centaines de communautés de toutes dénominations. Alors, j'ai pas pu m'empêcher de faire le parallèle avec notre propre communauté. Nous traversons une crise parce que nous avons une perception différente de certains éléments de la vie de l'Église. Mais qu'est-ce qui est important? Nos perceptions différentes et parcellaires ou la proclamation de la gloire de Dieu? J'ai trouvé la réponse en regardant encore et encore ce clip, ces artistes chrétiens qui se sont rassemblés. Ils se sont parlé et écoutés pour proclamer l'amour de Dieu pour les êtres humains. Ils continuent à proclamer la grandeur de Dieu et l'adorer ensemble. Ils n'ont pas regardé qui était l'autre. Ils n'ont pas regardé son étiquette. Mais ils ont choisi de se définir comme enfants de Dieu qui adorent Dieu avec son don particulier. Alors ce choix, pour en revenir à la parole de Dieu, ils ne l'ont pas fait en gardant l'attitude de deux personnages de la Bible dont je vais vous parler maintenant. Deux hommes montèrent au temple pour prier, un pharisien et un collecteur d'impôts. Le pharisien debout faisait intérieurement cette prière. « Ô Dieu, je te remercie de ne pas être avare, malhonnête et adultère comme les autres hommes. » Et en particulier comme ce collecteur d'impôts là-bas. Moi, je jeûne 2 jours par semaine. Je donne 10% de tous mes revenus. Le collecteur d'impôts se tenait dans un coin retiré et n'osait même pas lever les yeux au ciel. Mais il se frappait la poitrine et murmurait « Ô Dieu, aie pitié du pécheur que je suis !» Nous connaissons bien cette histoire. Je suis certaine que plusieurs d'entre vous, tout comme moi, vous avez entendu des messages, lu des commentaires sur l'attitude de ces deux hommes. Ce passage est utilisé la plupart du temps pour nous encourager à ne pas nous comporter comme le pharisien qui se croit meilleur que les autres, mais au contraire à nous comporter comme le collecteur d'impôts, humble, qui se rabaisse encore un peu plus. Et c'est bien ce que Jésus enseigne à ses disciples avec ce passage. Il nous demande de nous comporter comme ce collecteur d'impôts qui s'humilie tellement. Mais pourtant, je vois aussi autre chose dans ce passage. Ces deux hommes qui montent prier Dieu dans le même lieu, tous deux vont au temple. N'en est-il pas de même pour nous aujourd'hui ? Nous venons nous présenter à Dieu, devant Dieu, dans le même lieu. Et pourtant, ils ne sont pas ensemble. Le pharisien reste debout, visible de tous, arrogant, alors que le collecteur se cache dans un coin et ose à peine lever les yeux vers Dieu. Et c'est cela que j'aimerais souligner ce matin dans cette histoire. Être au même endroit, sans être ensemble. Peu importe qui nous croyons être, le pharisien sûr de lui, de son bon droit et de sa bonne conduite, ou bien le collecteur d'impôts, humble et misérable. De toute façon, je suis certaine, pour ma part, d'être un peu les deux à la fois, une sorte de Dr Jekyll et Mr Hyde. J'ai l'impression parfois d'être si sûre de moi que j'ai du mal à comprendre un autre avis. Hervé pourra vous le confirmer sans doute. À d'autres moments, je me sens si misérable que je ne suis pas loin d'être encore plus recroquevillée que le collecteur d'impôts. Alors oui, ce matin, je ne veux pas vous pousser à vous examiner pour vous transformer en personne humble encore plus que vous ne l'êtes. Mais j'aimerais simplement que vous vous posiez cette question. Est-ce que ce matin, je suis ici avec ma sœur, mon frère qui est là devant, derrière moi, à ma droite, à ma gauche, Ou bien est-ce que je suis simplement à côté de quelqu'un, sans plus? Je vous avoue que depuis que j'ai écouté le chant, j'ai beaucoup réfléchi à cela. J'ai profondément été remise en question par Dieu. J'ai été bouleversée par tous les sentiments que j'ai découverts en mon cœur, en pensant à notre Église, à mon attitude, et qui n'était pas à la gloire de Dieu. Parce que parfois, je viens assister au culte au même endroit que vous, mais est-ce que je suis vraiment avec vous? Unie en pensée, en cœur et en esprit? Je me suis rendu compte que oui, parfois, j'étais là sans être ensemble. J'ai constaté que nous avons tellement de mal à nous retrouver pour nous parler à cœur ouvert, sans esprit partisan ou de jugement, pour poursuivre la belle œuvre que Dieu a commencée à Clermont-Ferrand. Mais alors, après ce constat, que faire? Les paroles du chant que nous avons écoutées en introduction sont inspirées par le chapitre 5 d'Apocalypse. Et il chantait un cantique nouveau. « Oui, tu es digne de recevoir le livre et d'en briser les sceaux, car tu as été mis à mort et tu as racheté pour Dieu, par ton sang répandu, des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple, de toutes les nations. Tu as fait d'eux un peuple de rois et de prêtres au service de notre Dieu, et ils régneront sur la terre. » Puis je vis et j'entendis la voix d'anges rassemblés en grand nombre autour du trône, des êtres vivants et des vieillards. Ils étaient des milliers de milliers et des millions de millions. Ils disaient d'une voix forte, « Il est digne, l'agneau qui fut égorgé, de recevoir la puissance, la richesse et la sagesse, la force et l'honneur et la gloire et la louange. » Et toutes les créatures dans le ciel, sur la terre, sous la terre et sur la mer, tous les êtres qui peuplent l'univers, je les entendis proclamer. À celui qui siège sur le trône et à l'agneau, soit louange, honneur et gloire. Soit louange et honneur, pardon. Gloire et puissance pour toute éternité. Les quatre êtres vivants répondaient « Amen ». Et les vieillards se prosternèrent et adorèrent. Voilà la fin de l'histoire qu'Eliot nous a racontée ce matin. Regardez bien. Lisez bien ces versets qui nous disent que l'agneau a racheté des hommes, des humains, donc des hommes et des femmes, de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toutes les nations. Et il ne les a pas rachetés pour être juste les uns à côté des autres pour le louer. Non. Il en a fait un peuple qui règne. Et comment un peuple pourrait-il régner sans parler, sans se parler? Chacun ne peut pas tirer les choses de son côté, avec sa propre pensée. Nous sommes parfois à un point où nous ne savons plus communiquer entre nous parce que nous avons peur de la réaction de l'autre, de l'interprétation qu'il fera de nos paroles, de nos idées. Nous avons aussi peut-être peur de devoir abandonner nos convictions alors que nous les aurions reçues de Dieu, dans la prière par exemple. Mais Dieu ne nous demande pas cela. S'il nous a tous créés différents pour nous rassembler, c'est bien aussi parce qu'il sait que nous aurons des pensées différentes. Nous sommes un peu comme un diamant. Lorsqu'on le trouve, il n'a pas beaucoup d'éclat. Un peu comme nous tous lorsque nous avons rencontré Dieu, lorsqu'il a fait irruption dans notre vie. Mais Dieu, lui, voit ce que nous pouvons devenir. Alors il commence à nous tailler, à ôter de notre cœur ce qui n'est pas à sa gloire. Il nous apprend à marcher dans sa vérité. C'est souvent douloureux. Ça ne se fait pas juste en une fois, il y a des étapes. Et finalement, nous devenons une magnifique pierre précieuse. Mais tous les diamants n'ont pas exactement la même forme à la fin du processus. Et la beauté du diamant ne vient pas de la pierre en elle-même. Même si au départ elle doit être faite de cette matière qui permettra d'arriver à un joyau, c'est l'art du joaillier qui est important. Ainsi, nous ne pouvons pas nous réjouir de ce que nous sommes devenus beaux et parfaits. Nous pouvons seulement nous réjouir de ce que nous sommes passés entre les mains de notre grand joaillier, Dieu. C'est lui seul qui œuvre pour faire ressortir le meilleur de chacun de nous et d'une façon différente pour chacun de nous. Si nous regardons un diamant ciselé de 1000 facettes pour nous réjouir de sa beauté, ce n'est pas par sa perfection seulement qu'il est beau. C'est par l'éclat de la lumière qu'il reflète. Est-ce que vous le voyez avec cette image ? Peut-être que ce n'est pas évident avec la vidéoprojection, mais on voit les différentes lumières dedans, la décomposition de la lumière. Le joaillier a accompli un travail magnifique. Et maintenant, ce diamant peut refléter la lumière, briller de 1000 feux. C'est ce que nous pouvons faire lorsque nous nous sommes laissés façonner par Dieu. Nous reflétons sa lumière, toutes les couleurs de son éclat. Alors je vais terminer mon analogie sur ces milliers et ces milliers qui peuvent louer Dieu, qui sont comme des diamants, en vous laissant réfléchir à l'éclat du Christ que nous pouvons refléter si nous choisissons, comme l'Apocalypse nous y invite, de nous unir, différents dans nos points de vue, différents de toute tribu, de toute langue, de tout peuple, de toutes les nations, mais unis par notre amour pour Dieu et les uns pour les autres. Ce texte ne nous appelle pas à l'uniformité, il nous appelle à l'unité pour proclamer notre louange à l'agneau immolé, à l'unité pour proclamer devant les hommes que lui seul est digne. Alors, en conclusion, je vais vous laisser à nouveau regarder ce clip qui m'a bouleversée, vous laissant réfléchir maintenant comment, malgré nos différences, nous pouvons refléter ensemble l'amour pour Dieu et l'amour de Dieu pour nous.